mais le cinéma, c'est-à-dire une image mouvante, une image mobile. Mais il y a une invention peut-être plus modeste, mais qui a quand même eu un certain succès aussi, c'est la photographie. La photographie. Et ça donne peut-être un alibi à la dégénérescence de l'art à partir de là. C'est-à-dire, enfin, je m'explique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable, sur une plaque, sur un support, de retranscrire un portrait, par exemple, les artistes se sont amenés à se poser la question, que ce soit un portrait ou un paysage. Les artistes ont été amenés à se poser la question, et tout à fait logique, bon, est-ce qu'on est capable de faire ça mécaniquement ? Nous, à quoi on sert ? Et il faut rechercher autre chose. À partir de là, les chercheurs, alors c'est aidé précisément les Mesdemoiselles d'Avignon, la décomposition, la déstructuration, l'abstraction, le surréalisme, dans les meilleurs cas, parce que c'était des pionniers, donc tout à fait estimables. Il y a eu l'impressionnisme, etc. Des grands artistes, quand même. Mais après, il y a eu la dégénérescence à partir de là. Ce que vous appeliez vous-même, hein, c'est vous qui avez employé le terme de dégénérescence. Donc, à partir de là, à partir du moment où c'était atteint, dans le meilleur des cas de l'académie, du classicisme, dans le pire de l'académisme, on peut dater effectivement de là les recherches qui se sont faites par des grands artistes ou par les fumistes. En ce moment, c'est plutôt la période fumiste. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je date les choses de là. Et pas des guillotines. Hein. La guillotine, il y a eu des portraitistes, il y a eu un livre après la guillotine. Il y a eu des portraitistes, il y a eu des. C'est comme chez nous cette obsession de la céphale, de la guillotine, de la tête séparée du corps. C'est curieux. Je ne suis pas psychanalyste, hein, je m'en fous.
Je ne vais pas perdre la tête en avance, sinon je vais pas perdre la tête. Mais je me rappelle que nous, une autre partie de la production littéraire du 19e siècle est axé sur l'existence de zombies, de morts vivants, qui ont soit perdu la tête, soit la tête qui continue de parler tout seul, ou de vivre tout seul, ou de corps qui ont la tête continue à agir. Car, donc, vous avez cité Nerval, Garpour, Alexandre Dumas,
Marie Chevet,
Rubenstein, quand même un directeur, Rubenstein, pas du mal à l'enlever d'un peu romantique, et même les préoccupations actuelles, dans le théâtre, dans le cinéma. Bon. Alors la photo, pour y revenir, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est 1830, c'est très tôt. Moi, je vois un peu le contraire. Qu'en dépit des terreurs et peurs de Baudelaire que la photo stérilise d'un art, chez les artistes, ça a été au contraire un regain de créativité, parce qu'ils se sont mis à regarder les documents produits par la photographie avec une intense curiosité. Que peuvent révéler des aspects de la réalité étant des images fixes, prises dans certaines procédures, certains protocoles. Ils ont découvert des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ils courbaient, assurés par la photo, ils se sont souvent servis de photos. De la croix a utilisé des photos. Ils se continuent comme ça. Bonnard était un grand photographe, c'est-à-dire qu'il était très curieux de voir les images que produisait une antique photographie. Villard, c'est la plus chose. Degas pratiquait la photographie. Ça lui permet de voir des choses qu'il n'a encore jamais vues. Savoir les usages plus intimes et plus privés de la photo qui devenaient finalement accessibles à tout le monde, on en a un peu plus. Et puis, voilà, ça a continué comme ça. Et d'autre part, là, vous faites la vision à une époque où la photo était encore une artisanat extraordinairement délicat et minutieux. Disons des procédés extrêmement lents et que certains grands photographes ont voulu garder tel quel. Adjet, par exemple, très tardivement, continuait à utiliser des procédés chimiques cinématographiques qui étaient déjà totalement désuets depuis 20 ans, 30 ans, parce que ça lui donnait des effets de halo que la photographie plus moderne ne lui donnait pas. Tout le pictorialisme britannique s'est fondé sur la. Donc c'est pas du tout c'est un enrichissement d'un art par un autre, c'est pas du tout la destruction d'un art
la fin, la destruction de quelque chose qui peut-être peut s'appeler l'humanité. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que la beauté est signe de naissance et de signe de naissance, donc à l'opposé, et une question qui suit, quelle serait alors cette beauté? Est-ce que vous pouvez peut-être la décrire? Et dernière question, que pouvons-nous faire pour retourner à la beauté?
Vous êtes trop docteur, c'est pas vrai. Vous me donnez l'élément de la réponse. Ce qui est frappant, c'est que d'un côté, vous avez cette espèce de fantasmagorie d'un être libéré de la maladie, libéré des défauts, libéré maintenant de l'éternité, l'immortalité, dont on voit les composantes. Au niveau plus rudimentaire, plus quotidien, donc, excusez-moi, les magazines pour femmes, par exemple, il y a un autre temps, vanter page après page le corps cosmétisé, le corps modulé, le corps. Au moment même où, dans les arts, tout ce qu'on représente en peinture, en sculpture, ce sont des monstruosités. Alors là, je pose un problème de savoir comment ça s'est jamais produit comme ça. Que d'un côté, on est des êtres vivants qui poursuivent la fantasmagorie d'un corps parfait, sans maladie, sans défaut, sans tâche. Donc on glisse vers un eugénisme rampant, mais absolument sûr, certain. Et bien, d'autre part, dans les arts, par contre, on vise la monstruosité de plus en plus flagrant. Alors là, j'avoue que mes deux voix me paraissent.
Oui, pourquoi pourquoi c'est changé de nom?
Je ne sais pas. Quel pouvoir?
Je vois des commandes. Qui commande le groupe? Toi, c'est les familles, les institutions.
Non, mais voilà, c'est rentré dans des mêmes groupes, qui des opinions en certains moments. Soit dit dans les scènes de la
Monsieur Pierre, j'ai été un peu étonné, je veux dire, au début, quand vous avez posé une question, on ne sait pas si c'est une question rhétorique ou si vraiment vous ne pensez pas avoir une réponse à la question, quand vous êtes interrogé sur les dissonances en musique, les déformations en peinture, etc., à la fin du 19e siècle, une petite hypothèse là-dessus, elle n'est pas de moi. Si on considère que les artistes sont des gens peut-être comme des plaques sensibles, plus sensibles que chacun de nous peut-être, on pourrait dire que dans cette époque, entre 1880-1914, c'est ce qu'on appelle la belle époque, où tout semblait aller parfaitement vers le progrès illimité. Et puis ça s'est terminé par une guerre monstrueuse avec des millions de morts et du métal dans les corps, pour dire ça rapidement. Donc je me demande simplement si les artistes, certains d'entre eux en tout cas, n'ont pas parfois même pressenti ça avant que ça arrive. Remarquez, ça arrivait dans les colonies déjà, avant d'arriver ensuite sur notre vieux continent. Donc c'est un peu comme ça que je veux. Personnellement, je répondrai à la question. Pourquoi dire? Parce qu'en plus, c'est frappant, tout y arrive en même temps. Hein. La dissonance en musique, les déformations chez Picasso ou d'autres. Donc, voilà, c'est modestement peut-être une réponse à la question.
Oui, certains ne veulent plus. On n'a pas affronté l'apocalypse de la première guerre. L'apocalypse, au sens propre du terme, la révélation. A été possédé dans les arts, en peinture en particulier, par des tableaux totalement révolutionnaires. On a très bien compris, certains artistes ont très compris les 1910 qui se passé, en peignant des choses d'une précision hallucinatoire. Donc ce sont des mouvements cadents qui m'autorisent à dire aujourd'hui, face à ce que l'on vit aujourd'hui, voilà ce qui va se passer demain. Je peux pas répondre là.
Sentiment diffus.
un sens aux gens. Intérieurement.
Bah, je suis pas un truc comme ça.
Oui, j'ai des problèmes.